RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui découvrir des trésors particuliers puisqu'ils concernent la paix. Le ministère français des Affaires étrangères expose avec le Petit Palais à Paris de véritables objets d'art. À partir de demain 19 octobre et jusqu'au 15 janvier 2017, l'exposition intitulée « L'art de la paix, secrets et trésors de la diplomatie » met à la disposition du public près de 200 œuvres extraordinaires qui vont du Moyen-Âge à nos jours. On peut ainsi se représenter l'effroi des guerres successives, mais aussi et surtout comment elles ont été résolues. L'exposition « L'art de la paix », un grand reportage de Toufik Ben Aïchouch.
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et le Petit Palais organisent à Paris l'exposition inédite intitulée « L'art de la paix, secrets et trésors de la diplomatie ». Elle est visible à partir du 19 octobre et jusqu'au 15 janvier. 40 traités et une soixantaine de documents issus des archives diplomatiques choisis parmi les plus emblématiques de l'histoire des relations internationales de la France sont présentés au public pour la première fois. Ces pièces sont accompagnées par des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets d'art précieux et des archives filmées. Au total, ce sont près de 200 œuvres extraordinaires, le mot n'est pas trop fort, qui vont du Moyen-Âge à nos jours. On peut se représenter ainsi l'effroi des guerres successives, mais aussi, et surtout, comment elles ont été résolues. Richard Boisdin est directeur des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et du Développement international.
Rien que le nombre vous donne l'ampleur de l'activité de la France depuis Charlemagne jusqu'à aujourd'hui. Alors, des traités, des accords, c'est multiforme. Tous les jours, aujourd'hui, on en signe et tous les jours, ils sont déposés, les originaux, aux archives diplomatiques. Et donc, c'est en voyant cette richesse, que certains appellent trésor, nous sommes posés les questions avec toute l'équipe qui dirige les archives diplomatiques, mais ce serait quand même bien de les exposer. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la plupart sont des œuvres d'art. En tout cas, jusqu'en 1945, les traités sont des objets travaillés artistiquement, parce qu'ils ont une valeur symbolique très forte. Et donc, chaque traité a une signature artistique, il faut dire les choses comme elles sont, qui est absolument formidable. Après 45, ça se gâte, parce qu'on rentre dans la technocratisation du monde, et donc c'est des sortes de mémorandums, bon, artistiquement très faibles, on va dire. Et du coup, ces traités, c'est la mémoire de la France, évidemment, de l'État français sous toutes ses formes, la mémoire des Français, et aussi la mémoire des autres.
Pour la première fois donc, sont dévoilés plus d'une centaine de traités et de documents inédits des archives diplomatiques. Ces trésors de l'histoire de France sont accompagnés de tableaux, d'objets d'art ou d'archives audiovisuelles qui permettent de les situer dans leur contexte et d'illustrer le processus de leur négociation. Organisée en 5 sections chronologiques et thématiques, l'exposition « L'art de la paix » interroge en fait le rôle particulier de la France dans l'art de la diplomatie depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et des trésors et des documents inestimables, il y en a. Comme ce serment de Strasbourg. Il date de l'époque de Charlemagne. C'est le plus vieux document conservé et exposé. Et surtout, c'est le plus vieux document rédigé en français. Écoutez sur ce point Isabelle Nathan, elle est conservatrice générale du patrimoine au ministère des Affaires étrangères et du Développement international.
C'est un document exceptionnel puisque c'est le texte du serment de Strasbourg. C'est-à-dire que trois frères, en l'occurrence les petits-fils de Charlemagne, deux se sont alliés contre le troisième. Et c'est à ce moment-là, donc Louis le Germanique et celui qui représente donc la France, ils font prêter serment donc l'un le germanique en tudesque, c'est-à-dire en vieil allemand, et donc pour Charles le Chauve, en français, en vieux français. Donc c'est un document absolument exceptionnel, c'est le premier document en langue française attesté. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement pour nous, pourquoi l'a-t-on choisi ? C'est parce que on a souhaité en fait proposer une sorte de très grande synthèse sur un temps très long et effectivement remonter aux Carolingiens pour montrer qu'au départ, toute cette question de paix, c'est une affaire de famille. Et au début, finalement, on fait d'abord la paix entre frères. Et en l'occurrence, là, il s'agit de deux frères qui s'allient contre le troisième. Mais finalement, la paix entre les trois se fera au traité de Verdun, dont nous n'avons en fait évidemment conservé aucune copie.
Pour beaucoup d'historiens, ce texte préfigure l'alliance entre la France et l'Allemagne, qui deviendront plus tard le moteur de l'Europe, mais surtout, le texte rédigé en roman, le texte des serments, a une portée philologique et symbolique essentielle. Il constitue quasiment l'acte de naissance de la langue française. Mais il y a bien plus encore. Richard Boisdin.
Il y a deux documents, moi, qui me touchent beaucoup. Le premier, c'est le cartulaire de Christophe Colomb. C'est-à-dire qu'on a ce document qui est une sorte d'acte notarié entre Isabelle la catholique et c'est Ferdinand, je crois, hein, et Christophe Colomb, qui lui donne le titre de vice-roi des Indes, la propriété pour lui et sa famille, de tout ce qu'ils vont découvrir. C'est un document exceptionnel qui est ici, aux archives diplomatiques. En gros, c'est un titre de propriété accordé par la royauté espagnole à Christophe Colomb. Bien évidemment, ils ne vont absolument jamais tenir parole dedans, mais cet acte, ce cartulaire, il est ici et il est absolument spectaculaire. Le deuxième document, il concerne une partie de l'histoire qu'on connaît peu, c'est qu'un roi de France a été roi de Pologne. C'est Henri III de Valois, en 1589, qui a été élu, parce que la monarchie polonaise était élective, par la Diète de Pologne, c'est-à-dire par les princes et ducs et autres aristocrates polonais. En fait, ils avaient le choix entre le Prussien et le Russe, entre la peste et le choléra, ils ont choisi le Français. Parce que, au moins, ils étaient... Alors, c'est Henri III, donc, qui a été élu roi de Pologne. Et, bon, ça n'a pas duré très longtemps, et c'était pas forcément très glorieux. Mais enfin, passons, le document est exceptionnel, parce qu'il est dans une sorte de parchemin assez grand. Et surtout, il y a les sceaux de chacun des aristocrates polonais qui a voté pour Henri III. Alors là, vous voyez par exemple sur ce document, c'est à la fois un bout d'histoire de France, un bout d'histoire de Pologne, et surtout, c'est le début, il me semble, de cette relation incroyable qu'il y a entre la Pologne et la France, et qui a duré avec Napoléon, avec la création de l'armée polonaise, c'était par Clémenceau. Il y a eu, comme ça, un certain nombre d'étapes entre la France et la Pologne, dont cet acte de 1589, et c'est très spectaculaire. Hein. Il faut venir le voir.
En fait, le choix n'a pas été facile. Il a fallu choisir parmi quelques 25 000 traités ou œuvres d'art, quelques 200 objets. Et celui qui fait rêver, c'est une lettre. Une lettre inestimable, d'abord parce qu'elle est entièrement en or, ensuite parce qu'elle renferme un témoignage inestimable lui aussi. C'est Isabelle Richefort qui nous la présente.
C'est un trésor d'abord parce que c'est en or, effectivement, et surtout, elle porte toute la mémoire justement de la relation entre la France et le Siam, puisque c'est la dernière lettre qui a été conservée. Plusieurs lettres avaient été envoyées déjà au moment des premières relations entretenues entre Louis XIV et le Siam, pays très lointain, effectivement. Plusieurs lettres avaient été envoyées. Et ensuite, les relations étaient renouées donc, au XIXe siècle sous Napoléon. Une sorte de rouleau qui était effectivement plié et qui est tout simplement gravé en or.
Reliure de velours orné avec des broderies de fil d'or et d'argent, traités ou accords enluminés, boîtes à sceaux ouvragées, tableaux de grands maîtres. Tous ces trésors sont en fait les éléments constitutifs de la mémoire collective et individuelle. Il s'agit tout à la fois de la mémoire de la France, de la mémoire des Français et de la mémoire des autres pays. La dernière partie de l'exposition évoque l'émergence de l'opinion publique, le droit des peuples et la décolonisation, l'ONU, mais aussi l'équilibre de la terreur nucléaire, les questions climatiques, la gouvernance mondiale. Sont exposées également des affiches de 1914 aux années 1970, des caricatures de Daumier, entre autres, la terrible apothéose de la guerre, le tableau de Vassili Verentchagin, des œuvres de Monet, la rue Montorgueil, de Picasso avec sa célèbre colombe de la paix, mais aussi des objets historiques comme le bureau où a été signé le traité de Versailles, une œuvre de Charles Crescent, des documents audiovisuels, des archives, des interviews réalisées particulièrement pour l'exposition, donneront la parole à des politiques spécialistes des questions diplomatiques et permettront ainsi d'ouvrir sur des questions d'actualité. Le dernier mot reviendra à Patrick Lemasson. Il est conservateur en chef au Petit Palais. Patrick Lemasson que nous suivons pour une visite privée. On arrive dans une autre salle où là, on a des tableaux et des objets.
Alors là, nous sommes dans une autre salle qui est plutôt l'évocation de, nous allons dire, les techniques de la paix, comme on fait parfois dans des expositions purement beaux-arts, l'illustration de techniques, par exemple, ou de la gravure, ou de la peinture, des choses comme ça. Donc nous avons voulu faire une section des techniques de la paix. Donc nous avons un certain nombre de grands diplomates ou de ministres qui se sont particulièrement illustrés dans ce domaine. Bon, Talleyrand, bien entendu, bien connu, qui domine inévitable, et qui a tout fait pour être inévitable. Oui. En face, Colbert de Torcy, qui est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un des grands ministres, qui a créé une première école de diplomates au tout début du XVIIIe siècle, et donc une sorte d'ENA, si l'on peut dire, avant la lettre, et qui également a créé les archives des affaires étrangères, ce qui est évidemment très cher à nos deux collègues commissaires.
Oui, oui. Et puis, alors, il y a aussi un tableau qui figure le congrès de Vienne.
Absolument, oui, donc c'est évidemment...
Qui a mis fin, quoi, à la guerre en Europe, pour aller très vite?
Oui, qui a mis fin aux guerres napoléoniennes, aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Donc c'est un tableau qui est très, très célèbre. Alors, pas le tableau, une gravure, bien sûr, parce que nous connaissons des versions gravées essentiellement. À côté, nous avons l'entrevue, la célèbre entrevue de Tilsit sur un radeau entre Napoléon et Alexandre, le tsar de Russie. Et puis là, nous avons des éléments en rapport plutôt avec la représentation, puisque la paix, la diplomatie, bien sûr, c'est d'abord la représentation. Donc là, vous avez quelques tenues de diplomates, consuls, ministres plénipotentiaires. Vous avez les choses qui accompagnent généralement cette représentation, c'est-à-dire des cadeaux diplomatiques. En face de vous, vous avez une vitrine avec de nombreuses pièces du service que Louis XV avait offert à la princesse des Asturies, future reine d'Espagne, que l'on connaît plus tard par des tableaux de Goya. Hein. C'est la célèbre reine, femme de Charles IV, qu'on voit sur les tableaux de Goya.
En porcelaine fine, je suppose, non ?
Alors, en porcelaine dure, c'est le premier service de porcelaine dure qui a été offert par Sèvres. Sinon, les précédents étaient des services en porcelaine tendre qui avaient fait la gloire de Sèvres au milieu du XVIIIe siècle. Et puis, quelques tabatières qui étaient vraiment le cadeau traditionnel. Belles pièces d'orfèvrerie. Il y en a une conservée au Louvre avec le portrait de Louis XV et de Marie Leczinska, et une autre en porcelaine qui est conservée au musée Cognacq-Gé.
Il y a des ouvrages magnifiques, hein. Il y a par exemple cet ouvrage-là, l'Entente cordiale, le livre d'or de l'Entente cordiale.
Nous prenons date avec nos amis anglais que nous ne nous sommes plus battus depuis 1815 et que peut-être les choses pourraient continuer comme ça.
Et là ?
Ce sont des traités qui concernent les relations, par exemple, avec le Maroc. C'est le cas ici, un document qui a été adressé par Moulay Ismail, le sultan du Maroc, au roi Louis XIV.
Magnifique.
De beaux éléments de calligraphie. Là, effectivement, là, ce ne sont pas les reliures, mais les calligraphies qui sont mises en évidence.
Est-ce que la paix est un art ?
Je crois que la paix est un art, effectivement, peut-être au sens un peu ancien de ars en latin, hein, où donc là, effectivement, une sorte de technique, en tout cas, manifestement, on voit apparaître à partir de la fin du Moyen-Âge des techniciens de la paix, absolument, ou des artistes de la paix, si on veut conserver le terme, qui sont des diplomates, qui sont des ambassadeurs, qui au départ sont des gens qui sont de simples conseillers des rois, mais qui n'ont pas, je dirais, de spécialisation, de spécialité, et qui progressivement vont en acquérir, et on s'aperçoit que ces gens sont totalement indispensables dans les négociations qui vont suivre, et que c'est souvent grâce à eux, pas toujours très connus. Certains diplomates sont extrêmement célèbres, d'autres ne le sont pas forcément, et c'est quand même grâce à eux que les choses ont beaucoup évolué. On parle souvent de la guerre, c'est vrai que c'est souvent la guerre qui est mise en évidence par l'art, parce que c'est vrai qu'il était facile pendant des années d'illustrer les hauts faits militaires. C'est vrai que le roi était aussi un guerrier, il était à la fois un homme de paix pour son peuple, il devait l'être, mais c'était aussi un homme de guerre. Et les artistes artistes trouvaient plus facile de représenter une bataille que de représenter une paix, ce qui évidemment était plus complexe. Et donc je reprends vraiment ce terme d'art, et je crois qu'au sens fort et plein du terme, il s'agit véritablement d'un art. Je ferai une petite allusion, j'aime beaucoup cette formule, à ce que Talleyrand avait dit par exemple au moment du congrès de Vienne à, je crois que c'était le représentant prussien Hardenberg, mais je ne suis pas certain, qui réagissait sur le terme de droit public auquel Talleyrand avait fait allusion, et le Hardenberg lui dit un peu agacé « Que fait ici le droit public ?» Et Talleyrand lui répond « Monsieur, il fait que vous y êtes. » Je crois que c'est vraiment une remarque d'artiste.
Vous écoutiez L'art de la paix, secrets et trésors de la diplomatie française, présenté par Toufik Benaïchouch, réalisé par Souhail Khedir.
Bonjour Toufik Benaïchouch.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné, marqué alors dans cette expo ?
Écoutez, en fait vous avez le choix, mais pour ma part, un des objets les plus magiques est sans conteste une lettre entièrement en or. Elle se présente sous forme de feuille d'or, roulée comme un parchemin. Elle a été envoyée à Napoléon III par le roi de Siam, pour aller très vite, l'actuelle Thaïlande. Elle est vraiment sublime et l'on apprend du même coup que les relations entre la France et le royaume de Siam remontent à Louis XIV. La liste est longue en fait, mais s'il faut choisir, allez voir de grâce la lettre de Strasbourg. De quoi s'agit-il ? C'est le plus vieux document conservé et exposé d'un accord rédigé par les trois fils de Charlemagne. Vous voyez que ça remonte très loin. Les trois fils de Charlemagne qui se disputaient le royaume du père. Ils finissent par rédiger une entente, un accord, en partie en roman et en vieil allemand. Pour les philologues, c'est inestimable. C'est le premier document rédigé en français dont on dispose.
Et autre exemple, Toufik Benaïchouch, un parchemin d'Henri III.
Alors il y a ce parchemin qui fait de Henri III roi de France, également le roi de Pologne. 129 nobles polonais, à l'époque, avaient demandé au roi Henri III de régir la Pologne. Le traité est magnifiquement rédigé sur un parchemin qui se termine par 120 fils de soie tressés. Au bout de chacun de ces fils de soie, il y a une boîte circulaire en argent ouvragé qui renferme chacun des sceaux de cire des 120 nobles polonais. En fait, l'art et la paix sont à chaque fois liés pour notre plus grand bonheur, et je ne vous parle pas des autres œuvres d'art, donc, mais vraiment,
on a l'embarras du choix.
Il faut courir, oui.
En fait, c'est l'histoire de France revisitée par l'art, hein, c'est ça?
C'est à la fois, vous avez raison, la mémoire de la France, j'entends au sens de l'État français, c'est aussi l'histoire des Français. Je songe par exemple aux tableaux de Monet, de Picasso et de bien d'autres. C'est l'histoire également des autres pays avec qui la France a eu des liens, avec la Russie par exemple. Et pour la Russie, il y a ce tableau à la fois terrible et sublime de Vassili Verestchagin, intitulé « Apothéose de la guerre » et qui figure dans un désert une pyramide de crâne. Bref, courez voir cette exposition.
L'art de la paix, secret et trésor de la diplomatie française. Ça se passe donc au Petit Palais à Paris à partir de demain 19 octobre et jusqu'au 15 janvier. Votre grand reportage Toufik Benaïchouch est à retrouver, à réécouter comme chaque jour sur RFI.fr.